sais pas, mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est l'empathie.
Et il y en a pour toutes les sensibilités.
C'est quoi l'empathie?
L'empathie. Pour le grand Robert, l'empathie est la capacité de s'identifier à autrui et de ressentir ce qu'il ressent. Pour Wid le Cher, c'est le processus de copenser qui permet de réaliser un effet d'empathie grâce à des mécanismes d'identification et d'inférence. Pour Lebovici, l'empathie serait un processus affectif préverbal, comme l'empathie mère-bébé. Et pour Freud, l'empathie relève d'un ensemble énergico-économique où la relation à l'autre est envisagée dans le but de décharge énergétique. On se mettrait à la place de l'autre tout simplement pour faciliter cette démarche.
Ah, oh. L'écologie, c'est de l'empathie?
En quelque sorte, mais c'est aussi de la logique.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire ce mois-ci dans les allumeurs de réverbères, nous commencerons par un conte populaire de Chine intitulé « Le diadème de rosée », adapté par Jacqueline Guillemin, paru en 2007. Cet instant sera suivi par la rubrique « Texte historique ». Nous y entendrons le programme du Conseil national de la Résistance française, adopté en bureau le 15 mars 1944. Viendra ensuite la rubrique « Environnement ». Nous partirons dans le jardin d'Anne-Laure qui nous parlera du jardin forêt. Et pour clore l'émission, l'instant code du travail et convention collective où nous entendrons les réglementations liées au congé de proche aidant. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous. Allez hop, c'est parti, vous écoutez les allumeurs de réverbères.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant qui compte.
Hey, for you guys, take one moment, look at the overhead windows on Discovery.
Okay, Ronnie.
Les allumeurs de réverbères.
Le diadème de rosée. Conte populaire de Chine. Texte adapté par Jacqueline Guillemin. Édition Nathan, 2007. Il y a très longtemps, bien loin d'ici, un puissant empereur régnait en Chine. Cet empereur avait une fille belle et fraîche comme un bouton de rose. Hélas, la jeune princesse était capricieuse et ne souriait jamais. Pour voir un sourire éclairer le visage de sa fille, l'empereur de Chine aurait donné tout son royaume. Chaque jour, il faisait porter à la princesse des tuniques brodées d'or, des bijoux et des pierres précieuses. Mais la princesse ne souriait toujours pas. Et l'empereur se désolait. Un matin de printemps, la princesse se réveilla de bonne heure et pieds nus, elle sortit dans les jardins du palais. À ce moment, le soleil apparut au-dessus des arbres. Sur les roses, les fleurs de lotus, les herbes sauvages, des milliers de gouttes de rosée étincelaient au soleil. D'une cascade entre deux roches, des gouttelettes irisées s'envolaient au souffle léger du vent. Les oiseaux, en chantant, semblaient remercier le soleil et célébrer la beauté de ce matin de printemps. Jamais la princesse n'avait vu la nature resplendir d'un tel éclat. « Que c'est beau !» s'exclama-t-elle émerveillée. La princesse courut aussitôt réveiller son père pour qu'il contemple ce spectacle. « Mon père, regardez comme la rosée fait resplendir chaque fleur. Il me faut un diadème de rosée, sinon j'en mourrai. » « Un diadème de rosée, Mais c'est impossible. Rien n'est impossible pour vous, mon père. Vous êtes empereur de Chine, le maître du monde. L'empereur ne savait pas résister aux caprices de la princesse. Il était prêt à tout pour voir un sourire illuminer son visage. Il fit donc venir au palais les meilleurs orfèvres de l'empire et leur dit « Je vous accorde 3 jours pour réaliser le diadème de rosée que je veux offrir à ma fille. Si vous échouez, vous aurez la tête tranchée. » Désespérés, les malheureux orfèvres quittèrent le palais. Tous se demandaient comment fabriquer un bijou avec des gouttes de rosée. Le 3e jour, au lever du soleil, les artisans revinrent, tristement, au palais. « Où est le diadème de rosée ?» demanda l'empereur. « De grâce, épargnez-nous, » supplièrent les orfèvres. « Aucun homme ne peut fabriquer un bijou de cette sorte. » À ces mots, la princesse devint rouge de colère. L'empereur appelait son bourreau. Quand apparut à l'entrée de la pièce un grand vieillard à barbe blanche. Le vieil homme s'avança et dit « Glorieux empereur, je veux bien faire le diadème de rosée pour la princesse. » « Le diadème ? » « Oui, je viens faire le diadème de rosée, » répéta le vieillard d'une voix douce, « mais à une seule condition. Elle est accordée d'avance, n'est-ce pas, mon père ? » dit la princesse.
« Tes désirs sont des ordres, ma fille, » dit l'empereur.
« Parfait, » répondit le vieillard. « Il ne me sera pas difficile de faire un diadème et même un collier de perles de rosée, mais pour que ces bijoux puissent égaler la beauté de la princesse, elle doit choisir elle-même les plus jolies gouttes de rosée dans les jardins du palais. » La princesse courut dans le jardin pour tenter de cueillir quelques-unes de ces précieuses gouttes. Mais chaque fois qu'elle se penchait pour les saisir, la rosée s'évanouissait entre ses mains.
« Bon vieillard, » gémit la princesse rouge de honte, « je ne peux pas cueillir cette rosée. Dès que je la touche, elle disparaît. » Alors le vieil homme lui dit en souriant,
« En effet, c'est impossible. Tu as demandé à d'autres une chose que tu ne peux pas faire toi-même. »
Le vieillard caresse les cheveux de la princesse qui pleurait et il disparut. Depuis ce jour, la princesse ne fut plus jamais capricieuse. Et chaque fois qu'elle regardait le jardin recouvert par la rosée du matin, un sourire venait éclairer son visage.
Les allumeurs de réverbères.
Maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison.
Bah oui, c'est la mode.
C'est la mort.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes, réalistes, positifs.
Aventuriers? Des résistants, avec un grand R.
Oh, oh.
Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils s'occupent des autres.
Oh. Wow.
Allez, c'est parti mes petits loups, c'est la pause campagne, on prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Programme du Conseil national de la Résistance, 15 mars 1944.
Politique intérieure, programme d'action du CNR. Mesures à appliquer dès la libération du territoire. Unis quant au but à atteindre, unis quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but qui est la libération rapide du territoire, les représentants des mouvements,
groupements, partis ou tendances politiques,
groupés au sein du CNR,
proclament qu'ils sont décidés à rester unis après la libération.
Afin d'établir le gouvernement provisoire de la République formé par le général de Gaulle pour défendre l'indépendance politique et économique de la nation, rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission universelle.
2. Afin de veiller au châtiment des traîtres et à l'éviction dans le domaine de l'administration et de la vie professionnelle de tous ceux qui auront pactisé avec l'ennemi ou qui se seront associés activement à la politique des gouvernements de collaboration.
3. Afin d'exiger la confiscation des biens des traîtres et des trafiquants de marché noir, l'établissement d'un impôt progressif sur les bénéfices de guerre et plus généralement sur les gains réalisés au détriment du peuple et de la nation pendant la période d'occupation, ainsi que la confiscation de tous les biens ennemis, y compris les participations acquises depuis l'armistice par les gouvernements de l'Axe et par leurs ressortissants dans les entreprises françaises et coloniales de tout ordre, avec constitution de ces participations en patrimoine national inaliénable.
4. Afin d'assurer l'établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage universel, la pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression, la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères, la liberté d'association, de réunion et de manifestation, l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance, le respect de la personne humaine, l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. 5. Afin de promouvoir les réformes indispensables, petit a sur le plan économique.
L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Une organisation rationnelle de l'économie, assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes.
L'intensification de la production nationale, selon les lignes d'un plan arrêté par l'État après consultation des représentants de tous les éléments de cette production.
Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des ressources d'énergie, des richesses du sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques.
Le développement et le soutien des coopératives de production, d'achat et de vente agricoles et artisanales. Le droit d'accès dans le cadre de l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires et la participation des travailleurs à la direction de l'économie.
B. Sur le plan social,
le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel du travail.
Un réajustement important des salaires et la garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine.
La garantie du pouvoir d'achat national par une politique tendant à la stabilité de la monnaie.
La reconstitution dans ses libertés traditionnelles d'un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs dans l'organisation de la vie économique et sociale.
Un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. La sécurité de l'emploi, la réglementation des conditions d'embauchage et de licenciement, le rétablissement des délégués d'atelier.
L'élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre par une politique de prix agricole rémunérateur améliorant et généralisant l'expérience de l'Office du blé. Par une législation sociale accordant aux salariés agricoles les mêmes droits qu'aux salariés de l'industrie. Par un système d'assurance contre les calamités agricoles. Par l'établissement d'un juste statut du fermage et du métayage, par des facilités d'accession à la propriété pour les jeunes familles paysannes et par la réalisation d'un plan d'équipement rural.
Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours.
Le dédommagement des sinistrés et des allocations et pensions pour les victimes de la terreur fasciste.
Petit C, une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales. Petit D, la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance, mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires.
La rubrique environnement.
Les allumeurs de réverbères.
Aujourd'hui, je propose qu'on parle de une notion assez nouvelle, mais qui finalement s'ancre dans des notions qui sont vraies depuis la nuit des temps, c'est la notion du jardin-forêt. Donc quand je parle de jardin-forêt, je parle de jardin dans des maisons d'habitation, des maisons individuelles. La plupart des gens qui ont un peu de surface vont avoir un jardin d'agrément, mettre une table, faire un barbecue, jouer au foot, avoir un espace de vie avec les enfants peut-être, où des enfants ou des adultes peuvent jouer, et peut-être un espace potager. Et en général, dans la plupart des jardins, le jardin d'agrément est finalement séparé du jardin potager. Quand aujourd'hui je vous parle de jardin-forêt, ce serait un type de jardin qui viendrait mélanger le jardin d'agrément et le potager. Et maintenant, je vais essayer d'être un petit peu plus précise. Depuis plusieurs années, il y a certains termes qui sont nés, dont le terme jardin-forêt, et je pense aussi au terme jardin-punk, qui est un terme qui est bon, peut-être un peu bobo sur les bords, que sais-je, mais en tout cas qui veut bien dire ce qu'il veut dire quand même. Là, je suis face à un bouquin qui est super sympa, un bouquin d'Éric Lenoir, qui est un passionné vraiment de végétal, hein, c'est vraiment très court de le dire comme ça. En tout cas, Éric Lenoir qui a écrit un livre qui s'appelle « Le grand traité du jardin punk » et dans lequel il nous évoque ce qu'est un jardin punk et comment on peut nous-mêmes faire un jardin punk chez nous et surtout, pourquoi un jardin punk ? C'est bien. Alors, maintenant je vais essayer de réunir là toutes les infos que je viens de dire pour être un petit peu plus clair. Quand j'entends, dans l'idée de la tradition, le jardin d'agrément, je pense à un endroit assez peut-être esthétique, avec des arbres, des arbustes et des fleurs. Et en général, peut-être plus loin dans la parcelle de terrain, pour les gens qui ont la chance d'avoir des terrains un peu conséquents, ou juste suffisants, il y aura une partie potager. Et dans la plupart de nos cerveaux, on va imaginer un jardin potager
avec des surfaces de terre dans lesquelles on va voir des rangs de choux, des rangs de carottes, des rangs de salades. Et en général, quand on imagine ça, on imagine juste des rangs de choux ou de salades ou de ce que vous voulez. On n'imagine pas qu'entre deux rangs de choux, il y aura peut-être un petit arbuste ou un arbre. On n'imagine pas ça. On imagine vraiment une terre labourée, qu'on a retournée, et après on met nos plants, et après on arrose, et voilà, on va venir arroser tout l'été pour obtenir les fruits et les légumes qu'on veut. Alors, pourquoi déjà ce jardin que je viens de décrire n'a-t-il pas de sens ? Déjà, il n'a pas de sens dans le sens où il ne ressemble pas à la nature. Un jardin avec une terre labourée, déjà. Bien sûr, on laboure depuis très longtemps. On pensait que retourner la terre était une bonne chose. Et on comprend aujourd'hui, à travers différents travaux, là je pourrais citer des grands noms, mais je vais en citer un seul. Je vais citer Marc-André Sellos. Certains grands noms aujourd'hui de la biologie nous prouvent, avec, pour ceux qui ont besoin de preuves, des chiffres et des statistiques, finalement, non, le labour tel qu'on le connaît aujourd'hui, et là je vais peut-être parler plutôt en agriculture, mais donc c'est aussi vrai dans nos petits jardins à nous, le labour en fait ça détruit le sol plus qu'autre chose. Ça vient perturber la vie du sol. Si je suis super basique, si on laboure, par exemple, on fait mal aux vers de terre. Alors je sais que ça paraît un petit peu idéaliste, machin, mais bon, voilà. Pourquoi ? C'est peut-être bien de ne pas tuer ces vers de terre. C'est parce que c'est eux qui font le boulot d'aération du sol, qui permettent un sol meuble, qui vont permettre de faire des galeries pour que l'eau s'infiltre. Sans les vers de terre, tout serait inondable partout. Voilà une première idée. Essayons de garder la vie du sol. Donc, essayons de moins passer la charrue, que ce soit dans un grand champ pour faire du blé, de l'avoine, du maïs, ou que ce soit dans un jardin d'habitation pour planter nos légumes. On en vient donc à peut-être un entre-deux. C'est quoi l'équilibre ? Si on laboure pas du tout, c'est peut-être dur d'avoir une terre dans laquelle on peut planter. Par contre, si on laboure trop, la vie du sol va un peu trop morfler et puis donner le sol qu'on veut pour notre potager. Donc l'entre-deux, c'est juste un tout petit labour en surface maximum. Ça, c'est pour ceux qui, dans leur jardin, ont une terre un peu dure en surface. Un labour juste pour pouvoir planter. Maintenant, j'en reviens à l'idée de ces jardins-forêts. Comme je vous le disais, on n'imagine pas dans un jardin potager des fleurs ou des arbres. Et l'idée du jardin-forêt, comme son nom l'indique, ou par extension du jardin-punk, c'est d'intégrer dans un jardin potager des arbres, des arbustes, des fleurs. Donc imaginez quelque chose qui ressemble plus à la nature ou bien à la forêt, pour faire le lien avec le terme jardin-forêt. Et pourquoi ? Quel est l'intérêt de tendre vers un jardin punk ou jardin forêt et d'avoir dans nos surfaces potagères des arbustes et des arbres ? Pourquoi ? Il y aurait beaucoup d'exemples à donner, je vais en donner des simples. Plus on a des arbres et des arbustes, plus on a des insectes et des oiseaux. Certains auraient peut-être peur d'avoir des insectes proches de leur potager, en se disant peut-être que ces insectes ils vont nuire à mon potager. La réalité, c'est que si on a de nombreux arbres et arbustes, eh bien, on va en général avoir une biodiversité qui est suffisamment large pour s'équilibrer. Par exemple, quelqu'un qui aurait peur que ces arbustes ou ces arbres attirent des chenilles ou autre chose qui pourrait être gênante. En équilibre de ça, un arbre attirera des oiseaux qui sont eux mangeurs de chenilles. Dans les jardins potagers tels qu'on les connaît classiquement, sans arbres et sans arbustes, de nombreuses personnes mettent des produits phytosanitaires. Ils vont dire « Ah là, j'ai tel insecte qui mange mes choux, mes salades, je vais être obligé de traiter. » Alors que si on vient ajouter des arbustes, ajouter des arbres, eh bien on aura d'autres animaux. Les hérissons auxquels je pense, si on a des arbustes, on aura plus de hérissons qui vont venir peut-être se cacher dans ces arbustes et venir manger plus de limaces, plus d'escargots. Donc en fait, l'idée, c'est de dire, plus on a de végétation, peut-être on aura plus de petites bêtes. Dans le monde dans lequel on est, je pense qu'il est important de ramener les insectes et les petites bêtes. Et si on en a peur, si on a peur que ces bêtes-là mangent nos plantations, en théorie, ça devrait s'équilibrer. Je dis en théorie parce qu'il faut toujours être un petit peu patient. Rééquilibrer un endroit, ça prend en général, on dit, 4-5 ans. Si on rajoute tranquillement des arbres et des arbustes, faut attendre un peu que tout ça, ça pousse pour qu'au final, l'équilibre se fasse. Le jardin punk ou le jardin forêt, il nous enseigne la patience. Être patient. En général, les hérissons, ils aiment être peinards et vraiment planqués. Quand je parle d'arbustes, c'est un truc qui va pas excéder un mètre de haut, qui peuvent être vraiment touffus ou épineux. Je pense cotonnet aster, je pense piracanta. Parce qu'un piracanta, il y a des sacrés pics, il n'y a pas beaucoup de bestioles qui vont venir là-dedans. Donc lui-même, le hérisson étant piquant, hop, lui, il veut trouver un endroit où il aura de la fraîcheur en été, où il pourrait être protégé quand même des potentiels prédateurs, même s'il n'a pas beaucoup de prédateurs, le hérisson. Donc n'importe quoi qui a de la densité. Mais en réalité, les hérissons, ils peuvent aussi se planquer juste sous une palette. Mais après, les petits arbustes, ils vont aussi ramener des oiseaux et aussi des insectes de très nombreuses variétés. En général, on va me dire, bah oui, mais si je mets des arbres dans mon jardin, je vais avoir de l'ombre. C'est vrai que dans un potager, on aime que le soleil puisse taper sur nos tomates pour qu'elles puissent mûrir. Quand je regarde les années qui sont passées, dans de très nombreux endroits en France et le monde en lui-même, il fait quand même un peu plus chaud partout. Donc là où une époque on voulait que notre potager il prenne le plein cagnard, en gros, bah aujourd'hui le cagnard il fait que les plants ça les stoppe, ça les assèche. En gros, il manque d'eau. La solution c'est de rajouter plein d'eau. Oui mais non, parce que l'eau on en manque. Hein, on sait que l'eau c'est une denrée qu'il va falloir protéger. Donc l'idée, et c'est ça pour moi le meilleur argument, c'est qu'un jardin forêt, eh bien on sait que les arbres déjà attirent l'eau, donc un jardin forêt sera toujours un jardin potager plus humide qu'un autre. Donc en théorie, c'est des jardins dans lesquels on va mettre moins d'eau. Et également, l'ombre ou bien la semi-ombre, la pénombre que va amener un arbre. Des fois, même un pied de tomate qui aime bien le soleil, il aime bien avoir un petit coup d'ombre dans la journée, avec les périodes d'été extrêmement caniculaires qu'on a rencontrées. Donc le jardin forêt, il est logique d'un point de vue, je veux dire, de ce que ferait la nature sans que l'humain soit là, mais il est aussi logique depuis que l'humain a mis beaucoup trop sa trace dans la nature et que du coup on va vers un climat qui est de moins en moins tempéré et qui est de plus en plus chaud, quoi. Donc là, ça semble évident, là encore, pour venir donner des refuges à nos animaux également, pour qu'il y ait de l'ombre aussi pour les animaux, pas que pour les végétaux. Et pour aller dans la partie un petit peu plus technique, et c'est là que ça devient absolument passionnant et qu'on voit la diversité des végétaux, plus on a de végétaux dans un endroit, plus ce qui se passe dans ce que nous, on ne voit pas, c'est-à-dire dans le sol, est intense et bénéfique. Il y a un principe dans les sols qui est un principe qui garantit la bonne vie du sol. C'est ce qu'on appelle la mycorhize. La mycorhize, comme son nom l'indique, bon, mycologue et compagnie, ça nous ramène aux champignons. Donc la mycorhize, c'est l'échange qui va se passer entre les champignons du sol et les sujets qui sont autour. Les arbres, les arbustes, et aussi les plants de légumes potagers. Pour être très clair, il y a des champignons dans le sol qui ont des tas de trucs sympas à donner aux arbres. Et vice-versa. Quand on a des arbres dans un lieu, plus vous avez de végétaux, plus la mycorhize va être active. Plus on a une mycorhize active, donc en espèce comme ça de partage entre les racines des arbres et les champignons du sol qui vont se donner leurs bénéfices, leurs bons petits nutriments, etc. C'est comme vraiment une petite solidarité en sous-sol comme ça, de nutrition comme ça en sous-sol entre les différents éléments. Et plus cette mycorhize est active, plus le sol va bien, tout simplement. Et plus le sol va bien, plus vous réussirez vos plantations. Que ce soit pour accueillir des animaux, donner de l'ombre dans des temps qui vont devenir de plus en plus chauds, ou venir aider le sol pour que sa vie soit plus saine, eh bien, le jardin forêt, pour ceux qui aujourd'hui peuvent tester ça, semble être vraiment une des solutions pour pouvoir ramener toujours plus de vie dans nos jardins et essayer d'aider la nature. Thank you.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant code du travail et convention collective.
C'est les allumeurs de réverbères.
Le congé de proche aidant, version en vigueur au 6 février 2024. Article L3142-16. Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie. Son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L512-1 du Code de la Sécurité sociale, un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Article L3142-17. La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière. Article L3142-18. Le salarié ne peut exercer une autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L232-7 ou L245-12 du Code de l'action et des familles. Article L3142-19. Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié. Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai. Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé et y renoncer dans les cas suivants. 1. Décès de la personne aidée. 2. Admission pour un établissement de la personne aidée. 3. Diminution importante des ressources du salarié. 4. Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée. 5. Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille. Article L3142-20. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L3142-19. Article L3142-21. La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. Article L3142-22. À l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L3142-20, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Article L3142-23. Avant et après son congé, le salarié a droit à l'entretien professionnel mentionné à l'article L6315-1. Article L3142-24, un décret détermine les conditions d'application du présent paragraphe, notamment les critères d'appréciation du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée. Article L3142-25, en cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le Conseil des prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Article L3142-25-1. Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à toute ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées au 1 à 9 de l'article L3142-16. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Le salarié, bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article, bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. Pour plus d'informations, rendez-vous au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1er de la troisième partie de la partie législative du Code du travail.
Bravo, le Code du travail, bravo!
C'est beau ça, maman, hein?
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Allumeurs de Réverbère. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site internet allumeurs-de-réverbère.fr ou sur les réseaux sociaux. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour pour la rubrique environnement Anne-Laure Rousseau, habillage musical par Happy London Call. Nous vous souhaitons force et courage. Amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.